Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Thibaut François est avec nous depuis Fastea Capital. Bonjour Thibaut.
Bonjour Cédric.
Alors, ce marché particulier tout de même, vous en conviendrez, on est le 4 juillet, on fera donc sans les Américains et on a déjà tendance à souligner les séances au volume atone. Ça risque d'être le cas encore aujourd'hui, malgré la hausse.
Oui, clairement. Là, on a moins de 400 millions d'euros d'échangés sur le CAC 40. C'est vraiment très faible pour 11 heures. Marché qui va essayer de naviguer sans les Américains. Effectivement, c'est une dépendance day. C'est plutôt pas si mal que ça. 0,7% de hausse. On se reprend plutôt pas mal après une semaine compliquée la semaine dernière. On est bien tiré par Total Energy, hein, qui gagne un peu plus de 3%. C'est l'une des plus grosses pondérations du CAC 40. Et le fait de gagner 3%, c'est vrai que contribue largement à ce que l'indice soit positif ce matin. On a le pétrole qui essaye de se stabiliser autour de 110 $. Pourtant, on a les taux qui ont un tout petit peu rebaissé la semaine dernière. On est un petit peu en dessous de 1,80 sur la partie OAT. Pas mal de chiffres qui vont tomber cette semaine. On a eu tout à l'heure déjà la confiance des investisseurs qui est inférieur aux attentes. C'est pour ça qu'on a rebaissé un tout petit peu il y a quelques minutes. Mais c'est vrai que le marché risque d'être un petit peu calme ce matin en l'absence des investisseurs américains.
Quels sont les, du coup, dans ce contexte un peu particulier, quels sont les secteurs qui retiennent votre attention ce matin, ceux que vous regardez avec le plus attention?
Écoutez, forcément, l'énergie fait toujours partie des secteurs que l'on regarde. On parlait à l'instant de Total Energy qui est en forte hausse ce matin. On a Technip Energy aussi qui a eu un gros contrat avec la ville d'Oslo, un contrat qui sera entre 250 millions et 500 millions d'euros. C'est une usine à grande échelle de valorisation énergétique des déchets qui va être mise en place. C'est encore un beau contrat pour Technip Energy. On a une belle visibilité en plus sur la société. Une société qui est totalement désendettée, qui a 3 milliards d'euros de cash net en estimation sur la fin d'année 2022 pour une capitalisation boursière de 2 milliards. Donc vous voyez que la prise de risque est particulièrement faible sur le dossier. C'est un dossier qui avait baissé un petit peu avec son activité russe en début d'année. C'est vrai qu'on arrive sur des opportunités d'investissement qui nous semblent assez intéressantes sur le secteur et notamment sur Technip Energy. Autre secteur qui fait partie un petit peu de l'actualité ces derniers mois, forcément, c'est le secteur des EHPAD. On a Orpea ce matin qui a annoncé le renouvellement de son conseil d'administration. Guillaume Pépi qui pourrait prendre la présidence, ancien de la SNCF. On va dire que c'est plutôt une première étape pour un changement de statut, sachant que l'idée globale, c'est d'arriver sur une entreprise à mission, un petit peu ce qu'a fait le groupe Korian ces derniers mois. En tout cas, on manque encore de visibilité sur le dossier Orpea, mais c'est un dossier qui prend un peu plus de 5% ce matin. Ça donne un petit peu d'air pour les investisseurs, sachant que beaucoup de scénarios sont évoqués sur Orpea. Pourquoi pas une sortie de cote par un acteur du private equity, un changement de nom, pourquoi pas aussi. Ça fait partie des choses qui sont évoquées. En tout cas, le groupe Orpea gagne 5% ce matin et est en tête du palmarès sur le SBF 120.
Merci beaucoup Thibaut. Thibaut François, donc, Fastea Capital qui nous accompagnait ce matin. Le marché parisien qui est en hausse, donc, aujourd'hui, on progresse de 0,7%. Attention toutefois au volume de transactions en raison de l'absence des investisseurs américains. 4 juillet oblige. Et puis, on vous rappelle que le nouveau gouvernement est tombé et que c'est Olivier Klein, donc, qui est nouveau ministre du Logement.
BFM Business, BFM Patrimoine, le face-à-face.
Face-à-face entre Alexandre Baradez et Mathieu Loire. Bonjour messieurs et merci d'être là. Alexandre Baradez pour IG, Mathieu Loire pour AXA IM. Quel bilan faites-vous de ce premier semestre? On débute vraiment le second et puis la phase estivale. On va attendre les publications de résultats qui vont émailler ce début d'été. Mais voilà, quelle lecture en faites-vous déjà Mathieu de ce premier semestre?
On va donner quelques chiffres, hein. Comme ça permettra de planter un peu le décor.
De planter le moral.
Oui, exactement. Et planter le moral au passage, effectivement. Donc sur le S&P 500, c'est le pire premier semestre depuis 1962. Donc ça fait 60 ans qu'on n'a pas eu un premier semestre aussi mauvais. Et alors sur les obligations gouvernementales américaines, accrochez-vous, hein, sur les treasuries US 10 ans, en termes de performance, c'est le pire premier semestre depuis 1788.
Donc ça fait 1788.
Donc si on fait les calculs, ça fait voilà plus de deux siècles qu'on n'a pas vu un truc pareil. Donc c'est un carnage absolu. Et donc on est dans une phase de marché où il n'y a pas grand endroit où finalement se cacher quoi. Hein, à part le cash, les liquidités ou aller regarder sur des devises, notamment le dollar ou alors sur certaines matières premières. Sinon c'est vrai que c'est un véritable carnage absolument partout.
Bon donc en fait vous êtes en train de nous dire que moins 16 sur le CAC, on a des raisons d'être plutôt contents.
Oui, on est plutôt content, c'est vrai. On est sur des niveaux qui sont plus creusés encore sur le S&P 500. Et puis surtout, encore une fois, hein, sur des segments qui sont des segments obligataires qui sont censés être des valeurs refuges, avoir des telles performances négatives, c'est juste jamais vu. Voilà. C'est un petit peu, finalement, la leçon qu'on tire de ce premier semestre. C'est-à-dire qu'on est vraiment parti sur des bases qui sont
très
négatives.
Qu'est-ce que vous disent vos courbes aussi, Alexandre?
Ce qui est intéressant, c'est de voir finalement les marchés sont quand même en train de... Certains rebondissent. La Chine, par exemple, a réussi à faire des performances. Ces marchés, en tout cas, font des performances depuis quelques mois, deux mois qui sont plutôt intéressantes. Mais le problème qu'on a un peu partout, c'est que c'est pas suivi sur l'obligataire à haut rendement, en fait. Même sur la Chine, c'est un peu perturbant parce qu'on a des marchés actions qui ont entamé un vrai gros rebond, plus de 10% de rebond. Mais on voit que le segment high yield, donc les entreprises chinoises à haut rendement, dans lesquelles on trouve les promoteurs immobiliers, le segment ne rebondit toujours pas. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un mouvement sur les actions, mais qui n'est pas suivi par le high yield. Et on voit encore qu'il y a des non-remboursements qui se font dans le secteur immobilier chinois. Donc, c'est une vision qui est un peu particulière, où on a quand même une macro chinoise qui est en train de repartir un petit peu. On a vu que des PMI qui se annoncent en expansion assez solide sur la partie service. Manufacturier, ça a peine plus de 50, mais ça repart quand même un peu. Donc, on a envie de dire, si ça commence à détendre par là, les effets bénéfiques vont ensuite commencer à arriver, mais ils vont devoir se faire un peu attendre. Hein, parce que regardez, l'Allemagne, par exemple, on a eu ses chiffres ce matin sur sa balance commerciale. C'est une balance commerciale déficitaire pour la première fois depuis 1991. Donc, là aussi, on voit les effets des problèmes sur la Chine, les effets des ralentissements, les impacts directs des problèmes de l'énergie sur l'Allemagne. Et à la fois, c'est vrai que les baisses très conséquentes qu'on a eu sur les marchés depuis le début de l'année étaient quand même une anticipation, malgré tout, de ce que nous sommes en train de voir actuellement, ou de ce qu'on a vu ces derniers mois, c'est-à-dire que la dégradation des multiples, c'est un mix entre crainte sur l'inflation et les banques centrales, crainte sur la géopolitique, mais la troisième crainte qui était assez forte sur la macro mondiale liée à la Chine, celle-ci qui est en train de s'estomper, donc reste surtout la géopolitique, ça c'est le plus dur à anticiper, et sur la partie inflation, on commence à voir aux États-Unis quelques signaux de plafonnement sur l'inflation core notamment, la partie PCE notamment, ça fait trois mois consécutifs maintenant que ça commence à se tasser, donc la vraie problématique inflationniste aujourd'hui, elle persiste surtout sur les questions de matières premières et l'alimentaire. Mais si on regarde les matières premières au mois de juin, c'était quand même un mois plutôt pas mal finalement. Ça a 13-14% de baisse en moyenne pour les commodities. Donc ça va commencer à se voir sur les publications d'inflation courant de l'été. Donc voilà la question, c'est est-ce qu'à 18 fois les multiples sur le S&P ou 17 fois on sait qu'on peut aller plus bas, encore une fois, on l'a vu sur les bear markets précédents, on peut arriver à des 15 fois, des 12 fois les bénéfices. Donc est-ce que ça peut aller plus bas? Ça peut. Mais si les matières premières commencent à baisser, si ça c'est sur fond de récession, c'est un vrai problème.
Bien sûr.
Si par contre les résultats tiennent au deuxième trimestre, ce sera un peu étonnant quand même. Mais si malgré tout c'est moins dégradé que ce qu'on peut craindre, certains pensent même une croissance. Mais imaginons qu'on ait des résultats qui sont à peu près médians, qui ne surprennent pas trop négativement. À un moment donné, on commencera à avoir des réactions sur les taux et sur certaines devises.
Voilà donc le cadre posé, que ce soit plus fondamentalement ou plus graphiquement. N'empêche que le maître mot, ça reste récession. Parce qu'on a de l'inflation d'un côté et des banques centrales qui resserrent de l'autre, ça veut dire que le cocktail, il nous donne forcément une récession au coin de la rue ou pas, Mathieu ?
Alors, la probabilité qu'on ait une récession a considérablement élevé. Alors, d'ailleurs, la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on n'est pas déjà en récession ? Ça, c'est vraiment la vraie question. On va prendre les États-Unis, hein, parce que là-dessus, c'est quand même assez intéressant. On a eu le trimestre précédent une croissance négative. Et là, les indicateurs qu'on voit tomber, et on peut les agréger et donner une idée un petit peu de façon contemporaine de là où est la croissance. C'est ce que fait notamment la Réserve fédérale d'Atlanta. Donc ils ont un indicateur qui donne une idée de là où est la croissance contemporaine. Eh bien, on serait en territoire négatif. Alors, le trimestre n'est pas fini, attention.
Oui, bien sûr.
Les données, on a la moitié à peu près des données pour le trimestre. On a encore des données pour le mois de mai qui doivent tourner. Puis il y a encore le mois de juin. Mais on est déjà potentiellement en récession technique, c'est-à-dire deux trimestres consécutifs. Ça, c'est la définition officielle d'une récession. Aux États-Unis. Donc là, la question, c'est plutôt, est-ce qu'on va avoir une récession, mais plutôt quand on va l'avoir. C'est plutôt à ce stade, là où on en est. Par ailleurs, et c'est intéressant, c'est que la réserve fédérale américaine est en train de préparer les esprits au fait qu'il va falloir potentiellement passer par la case récession, voire même c'est un prérequis, pour arriver à faire baisser l'inflation au niveau qui est leur cible. Alors ça a commencé avec Jerome Powell qui disait il va y avoir des dégâts de collatéraux dans le cycle de remontée des taux. Ensuite, la réserve fédérale de New York a publié les résultats des modèles qu'ils utilisent pour prévoir la croissance et ils mettaient 80% de probabilité de récession. Et maintenant, vous avez un certain nombre de speakers du FOMC, donc du board de la réserve fédérale américaine, qui disent que eh bien il va falloir passer par la récession. C'était Daly notamment, donc qui est gouverneur de la Fed de San Francisco, qui est sorti avec cette idée-là que il faut y aller. C'est un exercice en fait qui est simple pour la Fed. Ils se sont engagés de façon extrêmement stricte à revenir vers leur cible de 2% d'inflation. Dans l'équation, du coup, qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? Il faut ralentir le marché du travail, c'est-à-dire augmenter le taux de chômage de manière à ce que les salaires, la croissance des salaires ralentisse. Comment on arrive à faire augmenter le taux de chômage autrement qu'en passant par la case récession?
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc, on en est là. Donc, aujourd'hui, eh bien, il y a une probabilité très élevée qu'on arrive et qu'on soit forcé même à aller en récession pour justement revenir dans les clous. C'est tout le débat du marché aujourd'hui. Ouais. Et le marché, d'ailleurs, l'a bien compris puisque vous regardez les anticipations d'inflation qui sont dans les prix de marché. Ils sont revenus à leur niveau de 2018. Donc, sur la partie long terme. Donc, à horizon 5 ans, 10 ans.
C'est-à-dire que pour le moment, le marché semble croire au pari?
Alors, il croit au pari, c'est-à-dire il croit au fait que l'inflation va revenir dans la boîte, ça oui, et il commence à se dire qu'effectivement, ça passera par la case récession, et on l'a vu dans les taux, puisque les taux qui avaient beaucoup monté hein, sur la partie longue des courbes aux États-Unis, en Europe, etc., se sont tassés de façon très violente, hein. On a eu un rallye sur ces taux extrêmement brutal, et ça, c'est symptomatique, justement, de craintes récessionnistes qui commencent à être intégrées dans les prix.
En cela, les chiffres de fin de semaine sur l'emploi américain vont être particulièrement intéressants à surveiller, Alexandre ?
Oui, parce que finalement, si la Fed, effectivement, je partage l'avis de Mathieu, la Fed prépare les marchés à une récession, en fait. Et Jean-Paul l'a dit très explicitement, il faut rééquilibrer l'offre et la demande. Alors, il a un petit peu louvoyé en expliquant qu'il y avait des risques que cette politique amène à la récession, mais que t'es pas obligé qu'on arrive en récession. Mais enfin, on a bien compris qu'il fallait quand même que l'économie se tasse assez fortement pour équilibrer cette offre et cette demande. Et effectivement, ils sont favorables à un taux de chômage plus élevé. Ils le disent implicitement, mais c'est ce qu'ils souhaitent. Donc oui, ça veut dire que si les chiffres de l'emploi sont très bons, par exemple, enfin très bons dans le sens où on crée encore beaucoup d'emplois, on a un taux de chômage qui baisse, par exemple, va, et puis des salaires moyens qui progressent, ouais. Bien normalement, good news va être bad news pour le marché parce que ça devrait encore lifter un peu les taux. Mais c'est vrai que l'exercice qui est quand même très délicat en ce moment, c'est que le marché obligataire américain a déjà intégré quand même beaucoup de choses. Hein. Regardez les taux courts. On a d'ailleurs cette inversion de la courbe de taux qui n'était pas très longue, hein, il y a quelques semaines, qui n'était pas très profonde d'ailleurs. Hein. On est tombé quoi, moins 10 points de base à peu près entre le 2 et le 10 ans, et depuis on est à plus 8, plus 10 points de base. Donc on flirte comme ça avec l'inversion, mais c'est quand même le signe que le marché a déjà intégré une bonne partie des hausses de taux. Et on voit même que même ces derniers jours, sur les anticipations de on est plutôt sur des baisses de taux ensuite qui arriveraient même dès la fin d'année prochaine, par exemple, donc signe que le marché a quand même pressé quelque chose d'assez concentré, en fait, hein, concentré sur 2022. Et donc, beaucoup de choses sont quand même déjà intégrées dans ce stress-là. Donc, sur l'aspect macro, je dirais que c'est quand même déjà bien intégré ce ralentissement. Désormais, c'est effectivement, et c'est pour tout le monde pareil, c'est l'aspect micro et qui va être l'aspect prédominant.
On va venir à la micro. Ça, c'est pour l'aspect américain et en Europe. Parce qu'en Europe, on n'a pas encore dégainé. On sait qu'on devrait le faire le 21 juillet. Il y a déjà des pays, notamment du Nord, qui disent qu'il faudra mettre 50 points de base. Comment voyez les choses en Europe? La situation n'est quand même pas tout à fait similaire.
Alors, elle n'est pas similaire, mais finalement, en termes de ce que le marché, la façon dont le marché réagit, c'est assez similaire, finalement. Donc, on a une inflation qui est très, très forte, effectivement, mais on a en face de ça une économie qui décélère de façon très marqué. C'est particulièrement visible dans les données d'enquête. Vous regardez notamment les PMI, donc ces données d'enquête auprès des directeurs d'achat des entreprises. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, ils nous disent sur les composantes, notamment les plus, finalement, qui anticipent le mieux la croissance à venir, notamment les nouvelles commandes, ils nous disent qu'on est en train de passer dans une phase de décélération très marquée, voire potentiellement de récession aussi à un horizon pas si lointain. Donc, les données se dégradent très vite, y compris en Europe. Où en Europe, la situation est finalement d'une certaine manière pire que tout, puisque l'essentiel de l'inflation n'est pas une inflation endogène comme ce que ça peut être aux États-Unis, avec la croissance des salaires notamment, etc. Non, en Europe, c'est le prix des matières premières qui a explosé, pour des raisons évidentes, hein, l'Ukraine, la dépréciation de l'euro, etc. etc. Et tout ça, eh bien, ça va venir manger sur la croissance. Hein, l'explosion du prix des matières premières, c'est une explosion d'une inflation importée qui fait augmenter les coûts, qui baisse le revenu disponible des ménages, et on a maintenant des salaires réels qui sont en contraction considérable en Europe, c'est-à-dire l'écart entre l'inflation et la croissance des salaires est extrêmement élevé. On a rarement vu, même jamais vu d'ailleurs depuis que la zone euro existe, un tel écart et un tel effondrement des salaires réels. Dans cet environnement-là, comment la consommation peut-elle tenir? La réponse est, elle ne tiendra pas. Et on commence à voir tout un tas d'indicateurs sur la consommation qui montrent que ça marque le pas, y compris dans le secteur des services où on s'attendait à une explosion.
Alors que la BCE n'a même pas commencé à...
Et voilà. Donc, on est à un stade où finalement, il y avait beaucoup de choses dans les prix. Le marché s'était énormément excité sur les déclarations de la BCE. Il y a fort à parier que la BCE ne sera pas capable de faire tout ce qu'elle a indiqué qu'elle ferait et tout ce que le marché avait intégré dans les prix. Pourquoi ? Parce que la dynamique intrinsèque de l'économie...
Donc vous êtes plus inquiet finalement pour l'Europe que pour les États-Unis ?
C'est une inquiétude généralisée sur les marchés, de toute façon, quoi qu'il arrive, puisque si les économies développées, États-Unis, Europe, rentrent en récession, la croissance des bénéfices attendus pour cette année et l'année prochaine, par le consensus, par les analystes, est beaucoup trop élevée. On est encore sur 10-11% de croissance cette année de bénéfices attendus, et l'année prochaine, sur des niveaux qui sont à 7-8%. C'est beaucoup trop si on rentre en récession. On le sait, il va y avoir un effet de levier opérationnel, on risque d'avoir une contraction des bénéfices, et c'est ça, justement, le processus de d'intégration dans les prix qui sera le plus douloureux.
Inquiet sur l'Europe ?
Les multiples sont quand même aussi beaucoup plus bas. C'est vrai que le multiple sur le CAC DAX, si on prend ça comme référence, on est sur des...
Oui, mais enfin, tout était plus bas, la croissance était plus basse.
On est d'accord, mais c'est vrai que sur les anticipations de redressement des taux de la BCE, ça à nouveau sur les anticipations plus moyen terme, on voit que les anticipations sont déjà dégradées, signe que le marché effectivement pense que la BCE ne pourra pas mettre tout ce qu'elle a, elle a voulu rentrer. Et à la fois, la BCE fait un constat qui est assez juste, je trouve, sur l'origine de l'inflation. Enfin, l'origine, ça, tout le monde le fait, ce constat, mais les dernières publications, par exemple, la semaine dernière, vous avez la moitié de l'inflation dans les chiffres publiés qui arrivent par l'alimentaire et par l'énergie. Donc c'est vrai que la BCE peut monter 20 fois les taux si elle a envie dans cet environnement-là. C'est pas ça qui fera baisser les prix du gaz importé et des matières premières. Donc à moins effectivement de mettre de l'économie en récession profonde et de tuer complètement la demande, oui, on aura un petit effet sur les matières premières, mais c'est pas, elle ne peut rien faire là-dessus. La Fed le dit très clairement. Jérôme-Paul l'avait dit aussi. On ne peut rien faire sur les matières premières. C'est pas notre job. Donc là-dessus, on ne repose que sur la géopolitique. Et c'est en ça que c'est un vrai poison, ce truc, parce que c'est totalement imprévisible sur la durée. Ça ancre aussi un sentiment inflationniste chez le consommateur qui se dit tant qu'il y a un conflit en Ukraine, les prix du carburant vont rester chers, donc je vais m'en consommer. Et on sait que la Fed, alors la BCE le fait aussi, même si elle le dit un peu moins, mais la Fed regarde beaucoup ce sentiment d'ancrage de l'inflation dans l'esprit des consommateurs parce que c'est un moteur ou un frein pour la consommation. Donc même si l'inflation commence à baisser réellement, mais qu'on a l'impression, et c'est pour ça qu'on mesure chez le consommateur américain où il percevra l'inflation sur des durées d'1 an, 5 ans, etc., c'est pour voir justement s'il croit que l'inflation est en train de s'installer. Et donc il y a aussi un rôle assez psychologique des banques centrales pour ramener un sentiment chez le consommateur qui sera moins dru que c'est le cas actuellement.
Voilà pour là le gros tableau macro. Rentrons un petit peu aussi dans le détail des marchés avec parce qu'ils pricent aussi la vie des entreprises, et on va rentrer dans cette période assez forte de la mi-année où on aura les résultats semestriels et puis où on pourra surtout titiller, écouter, chercher dans les prévisions des managements un petit peu ce qui va se présenter devant nous. Qu'est-ce que vous allez attendre, chercher, débusquer dans les résultats, dans cette grande période de publication de résultats, Mathieu ?
Alors, deux choses principalement. La première, c'est essentiellement les prévisions des entreprises, qu'on appelle familièrement les guidance, c'est-à-dire qu'est-ce que les entreprises perçoivent, comment elles se positionnent pour l'avenir. Hein, on le sait, les marchés réagissent à 6 mois, donc ils anticipent à 6 mois l'évolution des fondamentaux. Donc finalement, la publication des résultats ne va pas avoir un impact démentiel. C'est essentiellement le discours à venir sur ce qui peut arriver aux entreprises qui va être très important. Bon. Et là-dessus, on va faire très attention aux warnings que peuvent envoyer les entreprises sur un certain nombre de sujets. Et justement, sur le deuxième sujet, c'est la question des marges. Les marges des entreprises sont à des niveaux très, très, très élevés. Très élevés pour plein de raisons, hein. Aux États-Unis notamment parce que les taux n'ont pas arrêté de baisser. Et donc, les taux auxquels les entreprises se refinançaient étaient systématiquement plus faibles. Et donc, les charges d'intérêt, ont baissé et ça a permis de soutenir les marges. Et puis, le deuxième élément, c'était aussi les soutiens fiscaux, hein. On a vu des baisses de taux de taxation qui ont aidé justement ces marges-là. Avec la remontée des taux, eh bien, évidemment que ça ne va pas être la même histoire. Hein. Les taux de refinancement vont être systématiquement plus élevés. On commence à le voir d'ailleurs dans le segment à haut rendement. Eh bien, les taux de refinancement des entreprises, sur les entreprises les moins bien notées, hein, de qualité les plus faibles, ce gap de financement, comme on l'appelle, commence à devenir assez conséquent. Ça va mettre pression sur les marges des entreprises et potentiellement d'ailleurs augmenter assez nettement les taux de défaut. Donc là, on c'est justement sur ce mécanisme-là, sur les marges, et donc après sur les bénéfices et ensuite sur les taux de défaut, que va se jouer finalement l'ampleur du choc pour les marchés. Donc ça va être très important. On est sur des niveaux de marge qui ne sont pas soutenables. Ça va devoir baisser. l'ampleur de la baisse peut avoir un impact considérable sur les bénéfices. On parlait des multiples, hein. Alexandre mentionnait effectivement des multiples qui se sont quand même pas mal normalisés. On est assez proche des moyennes historiques, presque maintenant sur le S&P 500, et on est même passé sous les moyennes historiques sur les actions globales. Bon, le problème c'est que ça se fait sur des anticipations de bénéfices qui sont trop élevées. Se fait sur des anticipations. Si vous réajustez à la baisse de 10-15% les anticipations de bénéfices parce que justement il y a récession, tout d'un coup les multiples sont chers. Et c'est là justement l'enjeu, c'est de savoir où vont se fixer les anticipations de bénéfices. Et c'est là où justement c'est important d'écouter ce que les entreprises vont nous dire, parce que c'est sur cette base-là que les anticipations risquent d'être réajustées et potentiellement fortement à la baisse.
Alexandre, les clés justement que vous allez chercher dans cette saison de publication?
Oui, ça va être les guidances, comme indiqué Mathieu, effectivement, qui seront aussi importantes, voire plus importantes que les résultats actés. Il y a aussi un petit aspect qu'on va surveiller, comme Microsoft l'avait souligné il y a quelques semaines, l'aspect devise aussi. Est-ce que pour certaines boîtes américaines, ça devient un vrai contraire? Parce que toute cette phase d'aversion risque sur les marchés s'est faite en parallèle d'une forte appréciation du dollar. Dollar index qui est au plus haut, je crois, depuis 20 ans, si je ne me trompe pas. Donc il y a une phase d'appréciation dollar qui peut commencer à devenir problématique pour certaines boîtes américaines. Et on voit que tout est lié, en fait. Donc, on voit que le dollar s'est apprécié en même temps que les taux sont redressés, en même temps que la rhétorique de la Fed s'est musclée, en même temps que les marchés ont baissé. Donc, il faut voir si dans quelle mesure ça devient un problème pour les entreprises. Voir aussi comment ils perçoivent, finalement, la réouverture de la Chine. Est-ce que ça peut modérer un petit peu leurs angoisses du premier semestre, sachant que maintenant, la Chine est quand même plutôt en phase de réouverture, même si c'est assez irrégulier, mais c'est plutôt de la réouverture. Et puis après, il y a aussi voir comment toutes ces faits. L'inflation, elle arrive par où? Elle arrive aussi par la hausse de prix. En fait, les boîtes ont aussi beaucoup relevé leurs prix. Donc, dans quelle mesure ça a pu aussi préserver les marges? On entend beaucoup à des dégradations, mais dans quelle mesure toutes ces hausses de prix qui ont été passées aux consommateurs, on le rappelle, des hausses de salaire aussi en parallèle, hein, qui peuvent soutenir ces. Donc, voir si finalement il y a des boîtes qui ont réussi, malgré des hausses de salaire en interne et des augmentations de prix, finalement, à garder un niveau de marge qui est resté assez satisfaisant.
Ça veut dire qu'on crée des opportunités. Juste avant, il y a quelques-uns de vos petits camarades qui se pressent sur le plateau ces derniers jours et qui laissent entendre que dans cette période un peu délicate sur les marchés, certains pourraient tenter de piloter un peu les résultats, peut-être en réservant quelques bonnes nouvelles et autres, histoire de se dire, bon, bah, tant qu'on est plombé, autant tout passer ce qui ne va pas. Et puis de garder du grain à moudre pour la suite quand ça ira mieux. Vous y croyez, vous, à cette phase un peu de pilotage aussi des boîtes qui pourraient se dire, tiens, allez, tant qu'à...
Oui, c'est assez courant. Alors, même si c'est assez diffus, hein, c'est pas des choses qui sont monstres.
Non, c'est pas organisé et général.
Voilà, exactement. C'est assez diffus dans le marché, mais c'est d'ailleurs un phénomène qui est bien connu et qui permet d'expliquer pourquoi, en général, notamment aux États-Unis, la saison des résultats est généralement surprend plutôt majoritairement à la hausse. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'en moyenne, sur très longue période, les entreprises surprennent à 75% à la hausse et pas simplement 50%, hein, qui serait, une espèce de médiane normale. Ben, c'est justement, il y a cette espèce de pilotage des attentes qui amène finalement les analystes à réviser assez fortement avant la publication des résultats. Puis après, hop, ça surprend et on a du coup...
Oui, mais c'était un truc très américain. Et là, ça peut s'européaniser, entre guillemets.
C'est possible, ouais. C'est vrai qu'il y a un intérêt quand même des entreprises à faire ce qu'on appelle du management of expectations, c'est-à-dire effectivement gérer les attentes du marché et éviter en cas de pépin de se retrouver à avoir des trous d'air. Parce qu'on le sait, dans ces phases de marché-là, vous n'êtes pas tellement rémunéré pour les entreprises, hein, en termes de performance. Si vous surperformez par rapport aux attentes en termes de bénéfices, vous faites massacrer. Ouais. Si vous êtes en dessous du consensus, là, ça peut être assez violent.
Voilà, quelques avis comme ça. Il y a des opportunités en bourse en ce moment ou pas?
Alors, ça va, il n'y en a pas énormément de notre point de vue à ce stade. Pourquoi? Parce qu'on est quand même assez tôt dans cette phase d'ajustement. La récession, elle est à venir. Alors, on est peut-être dans une phase de ralentissement assez important, mais la bête a du gras, hein, pour parler de l'économie américaine. Ça va mettre du temps, ça va être long et pénible, hein, pour pouvoir achever l'économie américaine, la faire passer en récession de façon suffisante pour que le chômage passe à 4,5%, par exemple. On est à 3,6 aujourd'hui. Ça va mettre du temps. Il va falloir charcuter dans la bête, hein, et passer derrière le gras. Et ça va être compliqué. Voilà.
Il y a des opportunités en bourse?
Les secteurs, vu que la Chine réouvre un petit peu, un secteur qui a encore beaucoup souffert ces derniers temps, c'est le tourisme loisir. Si on pense que, par exemple, les matières premières commencent à plafonner, par exemple, le pétrole va lâcher les 130, alors je ne dis pas qu'il est en train de s'effondrer, mais les commodities sont parties à la baisse, donc ça peut commencer à produire un peu d'effet, même si ça accompagne le sentiment récessif. Hein. Mais des secteurs, oui, comme le tourisme loisir, par exemple, la Chine qui réouvre, je trouve que c'est un secteur qui est, bon, les multiples ne sont pas inintéressants, ça partie, c'est un secteur, la défense aussi, je pense que malheureusement, c'est un secteur auquel on coupera pas dans les années qui viennent, mais c'est pas un secteur très populaire, mais je pense qu'il faut passer par là. Puis des secteurs résilients, quoi, santé, utilities. Après, c'est que pour commencer à revenir sur les valeurs de croissance, il faudrait vraiment avoir des choses plus costauds que ce qu'on a actuellement. C'est vraiment une pente de taux qui se refait. En fait, t'as des taux courts US qui repartent un peu, ou en tout cas qui se stabilisent, et des taux longs qui voilà, une vraie repentification de la courbe des taux US, et avec un discours qui commencerait peut-être à se moduler un petit peu. Pas un vrai pivot, un pivot agressif, je crois pas une seconde ça. Un switch comme on a eu lors des crises Covid ou même 2019, là, quand il y avait cette espèce de phase de stress sur l'interbancaire, il n'y aura pas de pivot comme ça aussi fort, mais un plafonnement du discours de la Fed. D'accord. Commencera à suffire, notamment si l'arrivée des faucons type Bullard, par exemple.
Merci beaucoup à tous les deux, Alexandre Baradez, IG donc, Mathieu Loire, AXA IM était au cœur du face-à-face du jour. Bon retour et bel été sur les marchés. Le marché parisien, donc, qui pour le moment bien continue à progresser. On flirte avec le pourcent de hausse et pas loin des 6000 points. On va voir ce que nous en dit dans un instant Mathieu Cerrone. Et puis, n'oubliez pas non plus les podcasts qui vous permettent de retrouver à tout moment et à votre convenance les meilleurs moments de l'émission.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, on suit cette journée, première séance de la période estivale, hein, première vraie séance du deuxième semestre, première séance qui débute sans les Américains, puisque 4 juillet oblige, les marchés seront fermés à New York, il n'y aura donc pas l'appui de la première place mondiale. On file rejoindre Mathieu Cerrone chez Perceval Finance Conseil, qui suit cette séance pour nous. Bah, on est sur 1% de progression et on se rapproche des 6000 points. Finalement, ça va peut-être se faire sans volume, mais du coup, on grimpe.
Tout à fait, 1% de hausse. Là, on est d'ailleurs sur une petite résistance à 5985,90. Alors, quand je donne ces niveaux-là, c'est sur le futur échéance juillet. Il y a environ 7 points d'écart, puisqu'il reste des dividendes. Ce matin, on a eu celui de Publicis, et il en restera d'autres demain et après-demain. Donc, 5985,90, c'est une petite résistance sur le CAC. Au-dessus, on a 6020 et puis enfin 6050. Donc, un contexte évidemment très particulier, dans la mesure où, comme vous le disiez, les marchés américains sont fermés. Là, sur le CAC, on est à 400 millions d'euros échangés. C'est un volume que nous avons généralement à 10h le matin. 0,5% d'écart entre les extrêmes. Donc les marchés ne nous ont pas habitués à ça ces derniers temps, où on avait une volatilité très forte et un marché qui était et qui reste assez agréable à travailler, dans la mesure où justement il y a de la volatilité, il y a des choses à faire, il y a des opportunités, il y a une belle fréquence d'écart.
Mais en travaillant, même en l'absence de volume, quoi.
On travaille principalement. Oui, tout à fait. Et justement, l'absence de volume, alors c'est pas le cas pour l'instant, mais peut-être que ça se décantera un petit peu, mais l'absence de volume peut expliquer aussi et provoquer des écarts parfois importants avec le manque de densité. C'est ce que nous avons depuis plusieurs semaines, même depuis plusieurs mois. Le manque de conviction explique le manque de densité. Bien évidemment, si vous n'avez pas d'idées fortes sur les marchés, eh bien vous faites pas grand-chose. Si vous faites pas grand-chose, il n'y a pas énormément d'ordres qui arrivent. Et comme il n'y a pas énormément d'ordres, eh bien vous avez des carnets qui sont un petit peu vides, et donc des fois des mouvements qui se font dans le vide. Donc, faut pas être surpris par ce genre de mouvement-là. Et nous, dans notre scénario, eh bien, on s'attend pas à ce que les marchés puissent monter d'une manière durable. Donc, on profite de ces rebonds-là. Alors, parfois, on vend pas forcément toujours bien non plus, parce que nous, les premiers, on est un peu surpris par ces violents rebonds. Mais en même temps, ce que les marchés nous montrent, c'est une bonne résilience. Et ça valide notre scénario de fond avec une structure qui est assez bonne des marchés. On parle même de d'invulnérabilité. Alors, vous voyez, donc c'est évidemment à remettre dans un contexte particulier. Mais d'un point de vue technique, étant donné que tout le monde a conscience des nombreuses menaces qui planent, et prochainement, on va avoir les résultats d'entreprise. On parlait tout à l'heure en plateau, donc on va voir ce que ça donne un petit peu tout ça. Mais étant donné que tout le monde a conscience des nombreuses menaces, eh bien, beaucoup sont couverts, peu investis, en tout cas préparés à un éventuel choc. Et c'est ce qui fait que les marchés tiennent plutôt bien, parce que en d'autres temps, on ne serait pas sur ces niveaux de prix-là. Hein. On aurait été emporté par la marée avec les taux qui font peur, les résultats d'entreprise qui vont peut-être faire un petit peu peur aussi, la géopolitique qui fait peur. Donc malgré ce climat très particulier, les marchés tiennent bien et nous, on continue de travailler principalement à la vente.
Merci beaucoup Mathieu Cerrone et Perceval Finance Conseil qui nous accompagnent ce matin sur l'antenne de BFM Business. Le marché qui progresse d'1,11% et qui se rapproche de ses 6000 points, 5996 points. Ça chauffe du côté de l'eurodoll, 1,0449.
BFM Business partenaire.
Sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business.
Et c'était il y a quelques jours, le 21 juin dernier, très précisément, que se tenait donc cette quatrième édition du sommet BFM Patrimoine. C'était au Carrousel du Louvre et comme chaque année, autour de l'événement, eh bien, nos partenaires nous accompagnent. Et on accueille ce matin Corinne Calandini. Bonjour Corinne.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous, directrice d'AXA Wealth Management et Banque Patrimoniale. Alors, la loi Pacte, qui avait été promulguée en mai 2019, était... assez riche, et riche notamment en promesses. L'objectif était de transformer l'économie. Et il y avait pas mal de mesures, notamment en faveur des entreprises et de l'épargne retraite. Trois ans après, quel bilan en tirez-vous, Corinne ?
Alors Cédric, c'était un texte ambitieux, certainement, pour les entreprises, et qui n'aura peut-être pas donné tous les effets escomptés des 197 articles qu'elle contenait, cette loi.
D'accord.
Parce qu'effectivement, elle a été promulguée, et juste après, nous sommes rentrés dans la crise du Covid, et puis la guerre en Ukraine. En revanche, il y avait un volet, comme vous le soulignez, dans la loi Pacte, qui concernait l'épargne, la retraite et le financement de l'économie, notamment au travers d'une grande ambition qui était d'orienter l'épargne des Français vers l'économie réelle. Et sur ce point-là, trois ans après, parce que depuis trois ans, on reste dans un marché de l'épargne extrêmement dynamique, on peut faire un bilan positif. Et j'en veux pour preuve l'activité, par exemple, qu'on a sur les transferts pactes. Alors juste les transferts pactes, pour mémoire, c'est la possibilité qui a été donnée aux souscripteurs de transférer leur ancien contrat, qu'il soit multi-support ou monosupport, vers un nouveau contrat au sein même du même assureur, tout en gardant l'antériorité fiscale de leur contrat. Après des débuts un peu timorés, on va dire, le temps que les assureurs se mettent en route, le temps aussi que les conseillers en gestion de patrimoine prennent le nouveau devoir de conseil qui allait avec ce transfert.
Il faut convaincre les épargnants aussi.
C'est bien pour ça que je vous parle de devoir de conseil qui va avec ce transfert. On constate une activité qui a explosé en 2021 et qui se confirme en 2022 avec, je crois, 128 000 contrats qui ont été transférés depuis le 1er janvier sur le premier trimestre et 4,5 milliards d'en cours, dont 1 milliard sont allés s'investir dans les unités de compte. Donc c'est un vrai bilan positif.
Autre bilan, c'est celui d'une arrivée qu'intégrait cette loi Pacte, celle du private equity dans l'assurance vie. Ça a fonctionné ? Enfin, vous, notamment les assureurs, vous y êtes arrivés ?
Alors, le private equity, c'est la quintessence de l'investissement dans l'économie réelle, si on réfléchit bien, parce que quand vous investissez dans une unité de compte investie en private equity au sein de votre contrat d'assurance vie, vous donnez directement l'argent aux entrepreneurs, pour des projets de croissance, des projets d'innovation ou de la création d'emplois.
Ce qui n'est pas forcément le cas dans les actions quand on les échange à la Bourse de Paris.
Ce n'est pas forcément le cas sur une action.
L'argent de monsieur A, il va dans la poche de monsieur B.
Ce n'est pas forcément le principe de l'action cotée. En tout cas, sur le private equity, c'est vraiment l'esprit et ça remplit parfaitement son rôle. Et là aussi, c'est un bilan positif puisque trois ans après, tous les assureurs ont au moins une unité de compte en private equity au sein de leur contrat d'assurance vie. Si on regarde, nous, AXA Wealth Management, on avait déjà commencé en 2016 avec NextEdge. En 2021, on a eu un très gros succès avec Apax et le fonds APO. Et là, on s'apprête à faire un partenariat avec CAPSA pour la rentrée. Donc aujourd'hui, on a une dizaine de fonds qui sont ouverts sur l'ensemble des contrats Coralis pour AXA Théma et nos contrats Amadeo pour la gestion privée. Et puis, on est allé plus loin chez AXA, puisqu'on a créé avec AXA IM et Ardian un FCPR grand public, le premier FCPR qui était post-loi Pacte et qui a été référencé au sein de tous les contrats grand public. Et donc finalement, quand on regarde, en 2021, c'est un peu plus de 250 millions qui ont été collectés sur cette classe d'actifs. C'est un vrai succès parce que pour le client, on le sait, depuis 10 ans, cette classe, elle surperforme toutes les autres classes d'actifs.
Oui, jusqu'à présent, on avait l'impression que c'était un peu réservé à une élite, etc. Et en les faisant...
Ça l'était.
Oui, c'est ça.
Ça l'était, Cédric. C'était réservé.
Maintenant, tout le monde, entre guillemets,
aujourd'hui, on a démocratisé, on a démocratisé le private equity pour le grand public et pour les petits épargnants. Et on a donné, en tout cas sur AXA, au moins 250 millions aux investisseurs français.
Autre innovation, c'était la création du PER. Est-ce que c'est un succès ?
40 milliards. 40 milliards, on ne savait pas comment on le prend, mais c'est un succès. 40 milliards, c'est les encours aujourd'hui du PER en avril 2022. C'est 35% de croissance par rapport à 2021. C'est 8 milliards de versements depuis le début de l'année. Donc oui, je crois que le PER a su trouver son public, à la fois au niveau des épargnants et au niveau des conseillers en gestion de fortune indépendante, et aussi au niveau des grands réseaux d'assurance. Pour trois raisons peut-être. La première, c'est parce que la loi Pacte, elle a simplifié en ayant un véhicule unique. Et donc ça, c'est beaucoup plus lisible.
Un seul pour les gouverner tous, comme dit souvent la formule.
En tout cas, beaucoup plus simple en lisibilité. Il y a eu un effort de fait aussi au niveau de la transparence des frais. Et puis surtout, une clarification des conditions de sortie, puisque vous le savez, à l'époque, il y avait la rente, la sortie en rente unique qui freinait quand même les épargnants. Aujourd'hui, avec la sortie en capital, le PER est revenu complètement sur le devant de la scène. Donc c'est un vrai succès, là aussi, pour la loi PACTE.
Et il y a une vraie notoriété, du coup, maintenant, du PER ?
Aujourd'hui, vous avez plus de 40% des épargnants qui reconnaissent l'intérêt et qui ont pris conscience au fait aussi de l'enjeu qu'on a sur l'épargne, enfin sur la retraite en France. Et donc aujourd'hui, même les conseillers ont intégré dans leur placement et dans leur conseil patrimonial cette allocation, un peu d'assurance vie, un peu de PER.
Il y a un autre produit en trois lettres aussi qui est peut-être un peu moins connu du côté assurance, alors qu'il existe, c'est le PEA. Mmh. Et il est un peu mal aimé, enfin, ou maltraité parfois. Enfin, aujourd'hui, ça reprend des couleurs ou pas, le PEA ?
Alors, vous avez raison, on en a moins parlé. Pour autant, il était dans la loi PACTE, au même titre que le PER et que l'assurance vie et le private equity. Le PEA, il a été créé à la base, c'était un véhicule qui était dédié aux épargnants pour investir dans des actions majoritairement françaises, cotées et non cotées. Non cotées. Donc, on voit pourquoi le gouvernement s'est intéressé aussi à la loi PACTE.
Au PEA, dans cette loi PACTE, ouais.
Et donc, en fait, là aussi, il y a eu une volonté de simplifier, parce qu'en fait, quand vous regardiez les conditions pour verser, reverser, bloquer, c'était d'une complexité atroce. Donc, on a simplifié les conditions. Vous pouvez reverser et vous pouvez racheter sans fermer votre PEA. Donc, ça a été une vraie amélioration. Et puis, on a élargi l'univers d'investissement, puisque désormais, vous pouvez y loger des titres de crowdlending qui marchaient très, très bien avant le Covid. Hein, on sentait qu'il y avait une appétence des Français pour cette nouvelle classe d'actifs. Donc aujourd'hui, le PEA, il a retrouvé ses couleurs. Il les a retrouvées aussi parce qu'au moment de la crise du Covid, on a eu beaucoup de volatilité. Et les Français, en tant qu'épargnants, mais aussi les conseillers en gestion de patrimoine, se sont rendus compte et se sont rappelés de la rapidité d'un compte titre pour investir, prendre des positions, passer des ordres sur des titres qui auraient pu être un peu mal aimés. Et donc, c'est vrai que nous, au moment du Covid, on a eu une explosion de la souscription des comptes titres. D'ailleurs, on a même développé à cet effet une gamme en gestion sous mandat pour tous nos comptes titres et nos PEA. Donc oui, aussi le PEA, ça fait partie désormais d'une allocation d'actifs et d'un conseil patrimonial.
Donc, 3 ans de loi PACTE. Bilan hyper positif du point de vue épargne, quoi.
C'est un vrai succès. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'on est dans un milieu qui innove beaucoup. La finance innove tout le temps, hein, vous le savez. Les conditions de marché nous poussent à innover. Et donc, les lois qui ont construit les dispositifs doivent aussi évoluer. Et c'est un peu le succès de la loi PACTE, c'est qu'elle s'est faite dans un souci de co-construction avec les acteurs du marché. Et c'est pour ça qu'elle est positive. Donc, espérons qu'on continue sur ce trend.
Eh bien, on suivra tout ça. Merci beaucoup, Corinne. Merci, Corinne Calandini et AXA Wealth Management et Banque Patrimoniale qui nous accompagnaient donc sur cette 4e édition du sommet BFM Patrimoine. À très bientôt.
À bientôt.
Bonne journée.
Vous êtes déjà là.
Le marché parisien qui en ce moment progresse d'1,05%, 5993 points pour le CAC. On s'approche donc de ce seuil des 6000 points. Est-ce qu'on va réussir à le franchir? Peut-être à l'occasion de l'absence des investisseurs américains qui peut profiter au mouvement un petit peu fort comme ça. Investisseurs américains qui sont absents du fait de cette fête nationale 4 juillet oblige. Les marchés sont fermés outre-Atlantique lorsqu'on fête la fête nationale. L'Eurostock 50 lui progresse plus modestement, plus 0,5 seulement, c'est deux fois moins bien que Paris du coup. L'Eurodoll lui est à 1,0452.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Et toutes vos questions trouvent leur réponse chaque matin sur l'antenne de BFM Business grâce à nos experts. Vous pouvez les interroger d'ailleurs en nous écrivant bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Et ce matin, à la baguette, c'est Christian Fontaine, le directeur de la rédaction délégué du Revenu. Prêt, Christian ?
On y va. On va essayer de répondre à toutes les questions.
On va essayer. Allez, on est parti pour un petit quart d'heure. Vladimir, ses grands-parents veulent l'aider à financer ses études et il voudrait savoir comment on fait en pratique.
Alors Vladimir, il a raison de poser cette question parce qu'en fait, il y a un certain nombre de précautions à prendre, tant sur le plan civil que fiscal. Alors sur le plan civil, en fait, bien sûr, il y a des précautions à prendre si ce sont des sommes importantes. On pense notamment à des financements d'études longues, voire des études aux États-Unis. En fait, quand il y a des problèmes, c'est souvent au décès des grands-parents, puisque s'il n'y a pas eu un minimum de formalisme, voire certains membres de la famille qui réclament que les sommes données réintègrent la succession, d'où je vous imaginez bien les querelles possibles. Ouais. Ensuite, il y a les aspects fiscaux. Alors tout de suite, il faut bien savoir que les grands-parents, généralement, veulent un peu le beurre et l'argent du beurre. S'ils aident un petit-fils ou une petite-fille à financer des études, ben souvent, même si c'est pas exprimé dans ces termes-là, ils aimeraient bien que cette somme donnée vienne en déduction sur le plan fiscal.
Ah ouais, ils veulent le beurre et l'argent du beurre.
Voilà, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils aimeraient bien que cette somme vienne en déduction de leur revenu imposable et donc réduise leur impôt, l'impôt dû sur leur pension de retraite. En fait, il faut savoir que ça, c'est ce qu'on appelle, on est dans le cadre des pensions alimentaires et c'est très encadré sur le plan fiscal, donc peu ou prou, on va dire, pour faire simple, ce n'est pas possible. En fait, voilà. Par contre, ce qui est possible sur le plan fiscal, c'est de ne pas payer d'impôts sur les sommes qui sont transmises. Vous ne pouvez pas payer moins d'impôts que ce que vous payez aujourd'hui, mais vous pouvez échapper à l'impôt sur les sommes transmises. Donc, si jamais les sommes sont relativement peu importantes, quelques centaines d'euros, 1000, 2000 euros, le plus simple, c'est que les grands-parents donnent cet argent lors d'occasions particulières, notamment aux anniversaires ou à Noël, et c'est ce qu'on appelle un présent d'usage, c'est pas taxable.
Ouais, une obtention de diplôme ou une admission dans une école, enfin,
voilà.
À ce moment-là, il faut l'identifier. Hein.
C'est un cadeau, il faut mieux, si on atteint 1000, 2000 euros à Noël et aux anniversaires, il faut effectivement que ça soit clairement lié à un événement particulier, et il faut que les sommes données donc, ne sont pas imposables, mais il faut aussi qu'elles soient proportionnelles au montant du patrimoine des grands-parents de Vladimir.
En clair, l'autre, il ne faut pas qu'il, entre guillemets, s'appauvrisse. C'est un peu comme ça qu'on dit.
Il faut pas, on peut dire ça comme ça, il ne faut pas qu'il s'appauvrisse. Il faut que, voilà, que ce soit des sommes raisonnables. On peut peut-être, à partir, si les grands-parents de Vladimir sont à l'IFI, on sont particulièrement aisés, on peut peut-être monter à 2, 3, 4 000 euros aux anniversaires et à Noël. C'est très difficile de dépasser, sauf cas particulier, de telles sommes, ou en tout cas sur le plan fiscal, il y a un risque. Donc, il y a un risque.
Mais parce que ça n'est pas, il y a pas d'échelle, quoi.
L'administration fiscale a toujours refusé de fixer un plafond. Et entre guillemets, tant mieux, parce que si vous êtes aisé et que vous voulez donner 5000 euros à Noël et aux anniversaires, pour vous, ça peut passer, parce que vous ne vous appauvrissez pas en donnant une telle somme. Par contre, effectivement, si vous êtes, si vous n'avez pas la chance de disposer de revenus conséquents et un patrimoine élevé, pour vous, une telle somme peut être considérée comme un don. Et donc, dans ces cas-là, on rentre dans une autre sphère fiscale. Si maintenant la somme donnée est plus importante ou que vous ne pouvez pas, vous remplissez pas les critères pour être dans la sphère du présent d'usage.
Par exemple, s'il faut financer des études à l'international.
À l'international, dans ces cas-là, soit le grand-parent a moins de 80 ans et l'étudiant est majeur. L'étudiant majeur, on sans doute que c'est le cas, mais si le grand-parent a moins de 80 ans, vous pouvez vous placer dans ce qu'on appelle le cadre du don de somme d'argent. Hein. Chaque grand-parent de moins de 80 ans, chaque parent aussi, peut donner 31 865 euros en exonération totale d'impôts, sans passer par la case prélèvements fiscaux ou sociaux, tous les 15 ans.
Et donc, on rappelle, il faut que le grand-parent ait moins de 80 ans et que le petit-enfant ait plus de 18.
Voilà, dans ces cas-là,
ça
réduit un tout petit peu le spectre. Vous allez me dire maintenant, vous êtes gourmand, je vois que vous êtes en forme, mon cher Cédric, et donc le grand-parent a plus de 80 ans. Dans ces cas-là, il faut savoir que chaque grand-parent peut donner à chaque petit-enfant, figurez-vous, les choses sont mal faites ou bien faites, c'est le même montant. Donc, c'est pas le même. On n'est pas dans le cadre.
C'est pas le même article.
Même article fiscal, mais c'est le même montant. Vous êtes perdu, vous n'êtes pas perdu puisque vous connaissez la matière, mais on peut comprendre qu'au téléphone, si vous êtes sur l'autoroute et que c'est la première fois que vous entendez parler de ce sujet-là, que vous soyez perdu, c'est le même montant. Donc, chaque grand-parent, quel que soit son âge, peut donner à chaque petit-enfant, quel que soit son âge, 31 865 euros sous forme de liquidité tous les 15 ans. Donc,
ce qu'il faut, c'est retenir la somme, il faut retenir que ça va de grands-parents à petits-enfants. Et après, quand on se rapproche des impôts, c'est eux qui vous guident, très bien d'ailleurs. pour vous dire quel article on doit évoquer.
Oui, alors après ça, c'est à Vladimir d'aller sur le site des impôts et dans son espace personnel, c'est à lui de déclarer cette somme. Et en fait, c'est assez simple. C'est un questionnaire à choix multiples et donc vous cochez la bonne case, la case qui vous correspond. Voilà. Donc ça, c'est une thématique que l'on voit, une question qu'on nous pose très souvent.
Alors, d'ailleurs, on précise,
solidarité intergénérationnelle.
Je vais faire une petite pique à l'adresse des impôts. Si les grands-parents ont moins de 80 ans et qu'ils donnent à leurs petits-enfants mineurs, eh bien la réforme digitale n'est pas allée jusque-là, on ne peut pas le faire sur Internet.
Alors,
il faut le faire par papier.
Effectivement. Alors,
avis aux informaticiens de Bercy.
Depuis quelque temps, il est possible de faire ces déclarations de dons annuels et de donations par Internet, mais effectivement, le déploiement de ces réformes se fait progressivement et donc ce n'est pas encore possible.
Pour les petits-enfants mineurs, c'est pas possible,
il faut le faire en papier.
Vladimir, il est majeur,
donc c'est pas le cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a très souvent cette question des grands-parents qui financent les études des petits-enfants, ce qu'on appelle la solidarité intergénérationnelle. Il ne faut pas faire peur aux Français. Même s'il n'y a pas de réforme de l'héritage, vous savez, c'était l'un des sujets majeurs économiques de cette campagne pour l'élection présidentielle, il y a une réforme dans l'héritage dans les tuyaux. En tout cas, Emmanuel Macron, candidat, a promis un certain nombre de choses. Mais il faut savoir que même si ces allègements, même indépendamment de ces futurs peut-être allègements fiscaux, il y a aujourd'hui de nombreux cas d'exonération qui permettent à des grands-parents d'aider financièrement leurs enfants ou à des parents d'aider financièrement leurs enfants à financer leurs études. Mais Vladimir a raison de poser la question parce qu'à partir du moment où les sommes deviennent très importantes, s'il n'y a pas de précaution prise au décès des grands-parents, il peut y avoir un retour de flamme.
Bon, sauf s'il est tout seul et que ses parents sont tout seuls.
Alors oui, évidemment, c'est encore un cas, mais on est d'accord. On est d'accord. Son parent du côté des grands-parents qui comptent l'aider est enfant unique et que lui est enfant unique aussi, il n'y aura jamais de problème avec les autres pièces rapportées de la famille.
Vous avez bien fait de le préciser. Grégoire envisage d'acheter des SCPI via son contrat d'assurance vie. Il voudrait savoir si c'est une bonne idée.
Alors les SCPI, c'est un placement à la mode. C'est un placement qui distribue des revenus réguliers autour de 4% par an. Ça fait partie de la famille des placements à revenus les plus compétitifs aujourd'hui. C'est vrai que c'est une famille de placements qui a bien résisté à la crise sanitaire, au développement du télétravail et de l'e-commerce. Alors, le vrai problème des SCPI, c'est en cas de détention en direct, c'est bien sûr la fiscalité, puisque on parle de dividendes qui sont distribués par les SCPI. Tous les mois, parfois, le plus souvent tous les trimestres, mais ils s'ajoutent à vos revenus d'activité, ils s'ajoutent à votre salaire, ils s'ajoutent à vos pensions de retraite, et donc ils sont taxés à l'impôt progressif, à votre taux marginal d'imposition, plus les prélèvements sociaux. Comme vous êtes fort en mathématiques, vous avez calculé que si vous êtes taxé à 45%, ça fait plus de 60% de prélèvements, puisque les prélèvements sociaux sont à 17,2. Donc ça pique beaucoup. La solution pour éviter une telle ponction fiscale, c'est d'investir via l'enveloppe fiscale de l'assurance vie, puisque dans ces cas-là, vous pouvez passer, c'est un peu caricatural, mais vous pouvez passer sous condition d'un taux de prélèvement de 60%, plus de 60%, à 17,2. Donc vous divisez par 3 les prélèvements fiscaux et sociaux, c'est quand même très très intéressant. Alors, quels sont les autres avantages aussi de détenir ces SCPI via l'assurance vie? C'est que l'assureur est obligé d'assurer la liquidité des parts, c'est-à-dire il est obligé en cas de vente de vos SCPI de vous donner en monnaie sonnante et trébuchante l'équivalent de votre investissement. Donc ça, il faut savoir qu'aujourd'hui, les parts de SCPI sont peu ou prou liquides, mais si le marché se retournait, souvenez-vous, 92, 93, 94, ça peut paraître loin pour certains, mais c'était une époque où lorsqu'on voulait vendre ses SCPI, il fallait s'inscrire son nom sur une liste d'attente et ça pouvait durer 2 ou 3 ans, quoi. Donc on sait jamais, ça peut revenir. Oh, donc, même si la situation, et c'est pas le scénario du revenu, et la situation est très différente de celle qui prévalait à l'époque. Alors, voilà pour les points positif, voilà pour ce que peut apporter la détention de SCPI via assurance-vie. Vous allez me dire, il y a toujours des points négatifs.
Oui, il y a toujours un mais qui arrive derrière.
Voilà, alors le mais, c'est que vous ne pouvez pas, il y a un certain nombre de montages financiers qui ne sont pas possibles. Vous ne pouvez pas investir à crédit dans le cas de l'assurance-vie, vous ne pouvez pas démembrer les SCPI. Les autres hiatus aussi, c'est qu'il y a une couche de frais supplémentaires et que rares sont les assureurs qui vous redistribuent 100% des dividendes. Souvent, ils ne vous redistribuent que 85% et c'est la contrepartie de la liquidité qui est assurée. Alors, la vraie question qui se pose, c'est Grégoire, doit-il investir en direct ou doit-il investir via l'assurance vie? Ben, tout dépend un peu de ses priorités. S'il veut se constituer un patrimoine à crédit, ben, il n'a pas le choix, il investit en direct. Si maintenant, il a surtout besoin de revenus complémentaires, pourquoi pas investir via l'assurance vie, sachant qu'attention à la SCPI, c'est pas un placement alternatif aux fonds en euros, les SCPI, il n'y a pas de garantie sur le capital. Voilà, je précise ce point-là parce que c'est souvent présenté comme
du fait de leur rendement.
Ça.
On a dit c'est
notamment parce que la pierre rassure, donc comme le fonds en euros rassure aussi, mais sur le fonds en euros, vous profitez d'une garantie sur le capital qui est donnée par l'assureur, ce qui n'est pas le cas sur les SCPI.
Allez, on passe à la question que vous envoie Henri, qui interrompt sa carrière pour reprendre des études aux États-Unis. Et il nous précise que le coût de sa formation sera de 200 000 euros. Et il se demande s'il faut emprunter ou s'il faut qu'il puise dans ses économies.
Alors, on revient un tout petit peu à la question de Vladimir tout à l'heure sur le financement des études, un petit peu différent, puisque lui, Henri, il interrompt sa carrière, donc c'est déjà un professionnel. Et il pose une question que posent beaucoup d'épargnants, en fait, qui ont la chance d'avoir un tout petit peu d'épargne et un projet.
200 000, c'est déjà
une belle somme. Faut-il emprunter pour financer ce projet ou puiser dans mes économies? Alors la réponse, il y a deux éléments de réponse. D'abord, il y a des éléments psychologiques. Il faut être à l'aise avec ses dettes comme il faut être à l'aise avec ses placements. Henri, si vous faites partie de la moitié des Français qui considèrent que s'endetter, c'est une contrainte, si ça vous empêche de dormir en vous disant « mais s'il m'arrive quelque chose, comment je vais rembourser les banques ?»
Dans ces cas-là, vaut mieux pas qu'il emprunte.
Voilà. Ensuite, il y a des éléments techniques. Les éléments techniques, ils sont très simples. Oui, vous devez emprunter Henri si vous pensez que le coût de votre financement, le coût total de votre financement, sera inférieur au rendement anticipé net d'impôts et de frais de vos économies. Alors, bon, on va arrêter de parler charabia. Très concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie que dans le contexte actuel de taux et de marché, Henri, vous avez intérêt à conserver vos placements uniquement si vous investissez l'argent dont vous disposez en bourse, parce que seule la bourse vous débouchera sur potentiellement une performance qui sera bien supérieure au coût de votre financement. Voilà quelques idées de pistes pour Henri.
Bon, il reste une question de Marie, tant pis, vous la gardez pour la prochaine fois.
Ça sera pour
on
lundi
pas
prochain.
Réussi à traiter toutes les questions. Merci Christian Fontaine.
Merci
la rédaction du Revenu. Dans un instant, Guillaume Paul et 60 Minutes Business. Bonjour Guillaume.
Bonjour mon cher Cédric, bonjour Christian.
On va causer ministre.
On va causer du gouvernement. On va pas vous faire la carte du restaurant, on va pas vous donner tous les noms. Mais ce qui nous intéresse à BFM Business, c'est puis parler de ce projet du pouvoir d'achat qui va arriver avec une mesure dont on parle pas beaucoup, c'est le coup de pouce aux indépendants, dont on parle beaucoup moins. On vous racontera ça. Et puis alors ce dispositif qui est lancé aujourd'hui pour aider les entreprises qui sont submergées par la hausse des prix du gaz et de l'électricité. Comment ça marche? On va vous raconter tout ça, entre autres, dans un instant.
60 minutes business. Guillaume Paul à suivre. Le marché, lui, flirte avec les 6000 points. On progresse d'un 14%. Nous, on se retrouve demain. Très bonne journée.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.